おかしいおかしい降る感じ、
bonsoir et bienvenue à l'émission Dialogue entre Congolais. À partir de ce 1er juillet 2010, la MONUC, mission des Nations Unies au Congo, devient MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, avec comme mission la protection des populations civiles et la stabilisation de la RDC. En quoi la mission de la MONUC est-elle différente de celle de la MONUSCO? Participe à cette émission, Mademoiselle Mounoubaï, porte-parole de la MONUSCO. Bonsoir, Monsieur Mounoubaï. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, c'est Maître Jean Bouillou, député national de la majorité et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est en ligne, c'est lui, c'est Dismas Kitenge, vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH, et président du groupe Lotus, une ONG de défense de droits de l'homme. Bonsoir, Monsieur Kitenge.
Bonsoir.
Vos réactions, nous les avons déjà. Kipo Kajas de Moba Okatanga. La stabilisation de la RDC passe aussi par l'organisation des élections. La MONUSCO devrait s'impliquer dans l'organisation de la révision du fichier électoral, sinon les échéances seront reportées sine die. Malunga Kubali de Bandunduville, la MONUSCO démarre bel et bien aujourd'hui. Elle restera combien de temps encore au Congo? Merci de nous suivre. À Walikale, dans la province du Nord Kivu, sur 104.9 FM et partout au monde sur RadioKP.net. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
C'est parti avec la MONUSCO. Le secrétaire général des Nations Unies a dévoilé hier la plaque frappée à la mention MONUSCO au quartier général de la mission onusienne à Kinshasa. Pour Ban Ki-moon, la stabilité de la RDC et la protection des femmes contre les violences sexuelles restent la priorité de la MONUSCO. D'ailleurs, au sujet des violences sexuelles, le secrétaire général des Nations Unies a fait savoir qu'il a eu un grand entretien avec le président Joseph Kabila et qu'il ne ménagerait aucun effort pour lutter personnellement contre ce qu'il qualifie de très graves violations des droits fondamentaux. Écoutez Ban Ki-moon dans ses propos recueillis par Innocent Olinga.
C'est avec grand plaisir que je dévoile cette plaque et présente la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Nous devons absolument continuer d'apporter la priorité à la protection des civils, en particulier des femmes, sur lesquelles pèse un fardeau disproportionné. Tous les acteurs, y compris les forces gouvernementales, doivent s'attacher à mettre fin à la violence sexuelle. En ma qualité de secrétaire général, je ne ménagerai aucun effort pour lutter contre cette très grave violation des droits fondamentaux. En dévoilant cette plaque, je voudrais également rendre hommage au dévouement des militaires et des civils qui ont travaillé pour le maintien de la paix. Au total, 157 personnes ont servi cette cause au prix de leur vie. Honorons leur mémoire en veillant à assurer ensemble la stabilité dont ce pays a besoin pour tirer pleinement parti de ses atouts considérables.
Mademoiselle Mounoubaï, porte-parole de la MONUSCO, en quoi la mission de la MONUSCO est-elle différente de celle de la MONUC? Quelle est la nouveauté?
Bon, d'abord, sur le plan pratique, je ne pense pas que les gens vont voir une très grande différence entre la MONUC et la MONUSCO. En fait, la différence entre ces deux missions, c'est que les tâches vont maintenant évoluer vers la stabilisation du pays, alors que à la MONUC, il était demandé de prendre une part active dans les opérations militaires en soutenant les FRDC, par exemple, lors des opérations Abani-Léo et les autres missions en cours. Aujourd'hui, avec la MONUSCO, il s'agira de travailler de plus en plus avec le gouvernement pour la stabilisation du pays, afin de permettre que ce pays puisse maintenant s'engager dans le domaine de la reconstruction et du développement.
Allez-y.
Donc, essentiellement, ce sera cela. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler beaucoup plus. Mais ce n'est pas une nouvelle mission, comme les gens tendent à le dire. Vous savez, quand, peut-être l'exemple que je pourrais vous donner, c'est un enfant qui naît, qui grandit, et avec le temps, il prend de, non seulement de l'âge, mais il prend des responsabilités qui sont différentes. On ne demande pas à un enfant la même chose qu'on va demander à un adolescent. On ne demande pas à un adolescent la même chose qu'on va demander à un adulte. Aujourd'hui, je dirais que peut-être que la mission de la MONUC est devenue adulte. Donc, elle a une responsabilité qui est tout à fait autre. Mais c'est la même mission qui s'est simplement, évolué sur un autre plan.
Alors, on a besoin d'un peu plus de précision hein, sur la stabilisation même et la protection des populations civiles.
D'abord, la 1906, la résolution 1906 qui était celle qui a précédé l'actuelle résolution 1925, donnait essentiellement à la MONUC trois grands axes. Le premier, bien entendu, c'était la protection de la population civile. Le deuxième était de soutenir les différents efforts de paix qui étaient en cours, l'accord de Nairobi, l'accord de Goma, etc., et de combattre tous ceux que l'on pourrait qualifier de, d'éléments qui veulent peut-être dérailler ce processus. Donc, une fois, vous voyez encore une fois, on était là dans un optique militaire. Et la troisième chose, c'est de soutenir les opérations militaires dans des conditions bien précises, sont ces conditions qu'on appelle les conditionnalités. Aujourd'hui, avec la 1925, bien entendu, le Conseil de sécurité demande à la MONUSCO, premièrement, de toujours continuer et de se concentrer dans cette protection des civils. Deuxièmement, de prendre une part de plus en plus active dans la stabilisation et la consolidation de la paix, c'est-à-dire aux côtés des autorités de ce pays, travailler pour l'extension de l'autorité de l'État. Permettre à l'État de, d'avoir ses représentants, par exemple, partout où on a repoussé les groupes armés, il faudrait que l'État puisse s'installer avec ses différents, différents organes. Deuxièmement, soutenir l'état de droit dans le pays avec la réforme du secteur sécuritaire, avec le soutien au système judiciaire et pénitentiaire, etc., etc. Et bien entendu, tout cela conclut donc à cette stabilisation. La stabilisation, en fait, c'est de créer les conditions, par exemple, pour donner de l'emploi aux personnes. Il ne suffit pas simplement, par exemple, de repousser ou de reconquérir un endroit. Il faut garder cet endroit. Il faudrait que les populations concernées puissent voir un changement dans leur vie afin de ne pas être tentées de repartir vers les groupes armés. Voilà tout cela qui constitue la stabilisation.
Alors, maintenant, John Monobaye, il y a certains observateurs hein, qui pensent que la MONUSCO consacre la mise sous tutelle de la RDC. Qu'est-ce que vous leur répondez?
D'abord, je dirais que c'est pas vrai. D'ailleurs, la résolution 1925 commence tout de suite dans son alinéa 2 en disant que le Conseil de sécurité réaffirme son attachement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique de la République démocratique du Congo. Donc, nos États peuvent être à l'aise. Cela se dit tout de suite dans le deuxième paragraphe. Il ne s'agit donc pas d'une mise sous tutelle de la République démocratique du Congo. Vous savez, il y a eu des États qui ont été gérés directement par les Nations Unies. Je donne l'exemple du Kosovo, je donne l'exemple du Timor, mais là, l'administration, la gestion de tout le pays était assurée directement par les Nations Unies. Ce n'est pas le cas ici. Nous avons des institutions, nous avons des autorités qui ont été démocratiquement élues et qui sont en charge de ce pays.
Maître Jean Bouillot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de la majorité et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Comment vous, vous analysez ce passage de la MONUC à la MONUSCO?
Oui, merci, cher ami. D'abord, c'était toujours un peu contrariant pour les juristes de voir que une mission change pratiquement de mission entre guillemets, c'est-à-dire d'objet. Mais dans les cas d'espèce, quand on lit la résolution, il s'agit réellement d'un appui, disons, à la gouvernance. Parce que dans les différents aléas de cette résolution, disons 25, on découvre que, en fait, la MONUC va devoir agir pour soutenir les efforts du gouvernement.
La MONUSCO.
La MONUSCO, oui.
Voilà, on y arrivera.
On y arrivera petit à petit. Hein. Alors, ce que moi j'ai trouvé d'important, c'était cet appui que je qualifie globalement à la gouvernance. Cet appui, à la base, est nécessaire, notamment pour faciliter les opérations du gouvernement à travers ses représentants locaux. Je reviens par exemple d'une mission où la FAO et le PAM veulent appuyer les agriculteurs à l'intérieur du pays. Mais vous sentez qu'il y a tout un problème de déplacement, un problème, de mutation de personnes de DGD. Et tous ces déplacements sont pris en charge par des avions, des petits avions sous l'égide de ce qu'on appelait encore la MONUC. Et c'est une mission exaltante à mon avis, parce que même le gouvernement provincial et tous les gouvernements provinciaux n'ont pas souvent la capacité nécessaire de visiter leurs différentes bases. Et donc, si nous voulons bien comprendre cette assistance, cet appui, qui va se faire avec à la demande du gouvernement, on doit se rendre compte que dans les milieux les plus reculés, cette intervention est nécessaire. C'est-à-dire, une fois la guerre terminée, comme l'a si bien dit le porte-parole, qu'on va dire la MONUC, de la MONUSCO, cet appui est nécessaire parce que il n'y a pas que l'intervention en cas de guerre, mais il est encore plus important qu'il y ait des interventions pour stabiliser la population, pour soutenir leur vie quotidienne, afin qu'ils remarquent qu'il y a un changement réel et qu'il n'y a pas seulement qu'une affaire de les protéger contre les armes, mais il y a aussi une affaire de les aider à s'organiser eux-mêmes dans leur vie quotidienne.
Mais comment alors, Maître Jean Bouillot, bon, vous n'êtes pas du gouvernement, mais ce sont des analyses que nous faisons, comment le gouvernement pourrait-il faciliter la tâche à la MONUSCO dans les cas, par exemple, des violations des droits de l'homme? On a connu récemment le cas Ntaganda, qui est toujours flagrant, par exemple.
Oui, bon, le cas Ntaganda, c'est quand même un cas atypique. Eu égard aux conditions aussi atypiques. Je veux dire par là que pour choisir entre la paix et la justice, il y a un prix à payer, et dans le cas précis du Ntaganda, on a sacrifié la justice au bénéfice de la paix. Ça, c'est une décision, plus ou moins exceptionnelle.
Politique.
Politique, oui. Mais en ce qui concerne proprement l'appui que la MONUSCO a vis-à-vis de la population, il est clair que l'agir de la MONUSCO va largement dépendre de la demande, du besoin exprimé par le gouvernement lui-même. Autrement dit, vous avez posé tout à l'heure la question de la mise sous tutelle, sur laquelle beaucoup de gens se sont préoccupés. Il n'y a pas mise sous tutelle, parce que la mise sous tutelle sous-entend qu'il y a eu une initiative propre de la mission des Nations Unies qui est sur place, qui ne dépend pas du gouvernement ou d'une gouvernance locale. Dans le cas d'espèce, il est affirmé l'autorité et la souveraineté du gouvernement en place et que la mission des Nations Unies va s'attacher aux demandes qui seront exprimées ou concertées avec le gouvernement. Et cela, je crois que c'est important. Mais c'est un besoin, à la base notamment.
Bismas Kitenge, vous êtes vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme. Hier, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vous a reçu. Comment vous analysez le passage de la MONUC à la MONUSCO?
C'est un passage normal qui devrait être déjà envisagé, puisque au regard des éléments qui vont me permettre d'analyser la MONUSCO aujourd'hui, à mon avis, il y a trois éléments à prendre en considération. Le premier élément, c'est l'élément d'ordre contextuel et d'élément également factuel, c'est-à-dire l'ensemble des éléments du contexte et les raisons qui ont expliqué ces changements-là. Et deuxième paramètre de mon analyse, c'est la forme. Qu'est-ce qui change au niveau de la forme? Et enfin, c'est le fond. Parlant rapidement du contexte, il faut dire que ce changement a été motivé surtout par le bras de fer qui a eu lieu entre le gouvernement congolais et le Conseil de sécurité. Le gouvernement congolais voulait du départ de la MONUC au plus tard dans une année, et la communauté internationale avait estimé qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire ici, des défis très importants en matière de paix, en matière de sécurité et en matière d'un état de droit. Alors, la MONUSCO aujourd'hui, c'est le résultat du consensus entre le Conseil de sécurité et le gouvernement congolais. C'est le résultat du consensus. En ce qui concerne la forme, évidemment, il y a le premier élément, c'est que ces changements de nom, c'est quelque chose de fondamental. Au niveau de la forme, c'est également la procédure, c'est que la MONUSCO sera en concertation permanente avec le gouvernement congolais pour mener certaines tâches. Mais là aussi, il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui change au niveau de la forme et qu'est-ce qui reste? Au niveau de la forme, il y a des opérations qui nécessitent la collaboration entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Mais il y a d'autres opérations que la MONUSCO va mener seule sans le gouvernement congolais. Par exemple, la question des droits humains. Ça, c'est aussi très important. Alors, au niveau de fond, ce qui n'a pas changé, c'est quoi? C'est que la MONUSCO reste toujours sous le mandat du chapitre 7. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies parle de l'imposition de la paix. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas eu de changement. Et quand je dis qu'il n'y a pas eu de changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux du Conseil de sécurité, le Congo constitue toujours un pays de menace importante sur la paix et la sécurité internationale. Et c'est pour cela il faut la placer sous le chapitre 7, imposition de la paix. Ça, c'est aussi très important. Mais ce régime d'imposition de la paix a été quand même un tout petit peu assoupli par la collaboration. Mais cette collaboration ne veut pas dire que la paix est totalement revenue. Ça, c'est très important qui reste. Ce qui, évidemment, reste aussi, c'est quoi? C'est que dans cette résolution, comme la résolution de la fois passée de la transition, on a inséré un élément important qui constitue un changement fondamental, c'est qu'il n'y a pas que la protection de la population civile. Il est bien dit de protéger la population civile et les personnels chargés de protéger les droits de l'homme. Là, un élément très important, les défenseurs des droits de l'homme doivent être protégés. Ça, c'est dit dans la résolution assez clairement et fortement. Ce qui est aussi important, c'est que la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves, y compris les crimes de violence sexuelle, doivent toujours être combattus aussi bien par la MONUC que par le gouvernement congolais. Bien sûr, la responsabilité première revenant d'abord au gouvernement congolais, mais au cas où le gouvernement congolais ne s'exécute pas de ses attributions comme il faut, il reviendra de la responsabilité morale de la communauté internationale d'intervenir. Et là, la raison qui a été avancée là, de la conciliation entre la paix et la justice n'est pas tout à fait fondée. Parce qu'aujourd'hui, il est connu que la justice est un instrument de la paix. C'est que la justice et la paix ne peuvent jamais être dissociées. L'un va avec l'autre. Ça veut dire pour les Bosco Ntaganda, il n'est pas concevable qu'on dise que pour raison de paix, on tolère que le mandat de la CPI ne soit pas exécuté, puisque entre guillemets, Bosco Ntaganda a collaboré au processus. Mais il a collaboré, là on ne voit qu'être d'un seul côté. Mais on ne voit pas les crimes qui ont été commis, la gravité des crimes. On ne voit pas non plus les souffrances des victimes. Et aujourd'hui, Bosco Ntaganda est là, bien présent, dans la zone où ces éléments et lui-même ont commis ces crimes-là. C'est un affront pour les victimes. Alors la justice internationale voit d'abord plus quoi? Plus les victimes, puisque la CPI a été d'abord créée pour lutter contre l'impunité et pour révaloriser les victimes. Et là, le gouvernement n'a pas le prétexte de dire que la paix serait contraire à la justice. La justice et la paix se marient et doivent être consolidées pour une société. Alors je voudrais dire aussi ce qui est très important pour cette résolution au niveau de fond. La résolution parle de la protection de la population civile, parle également de la consolidation de la paix. C'est qu'on a reconnu que la paix est encore fragile au Congo, malgré quelques avancées, mais il faut la consolider. Et enfin, il y a l'aspect de la stabilisation. Alors, il faut analyser la résolution point par point. Ça, c'est le trois points fondamentaux de la résolution. Il y a d'abord la protection de la population civile, l'effort doit être fait aussi bien par le gouvernement que par la MONUC, mais de concert assez complétant. Mais là aussi, il y a le principe de la conditionnalité qui a été aussi affirmé dans la résolution. La MONUC ne pourrait pas appuyer les opérations militaires qui violent le droit des citoyens. Ça, c'est tout à fait clair. Et là aussi, c'est un aspect des droits de l'homme qui est toujours privilégié dans cette résolution. Ce qui est aussi très important, l'aspect de la consolidation de la paix. C'est que l'aspect de la consolidation, c'est ce que le porte-parole a essayé d'aborder. C'est qu'il faudrait que la MONUSCO contribue à aider le gouvernement à restaurer l'autorité de l'État.
Permettez que nous puissions dialoguer pour avoir un peu plus de précision sur les propositions ou les observations que vous faites. Manoj Mounoubaï, cet auditeur Guillaume Le Bracbert de Mahagui dans la province orientale qui dit « La MONUSCO fera-t-elle usage de la force pour contraindre les groupes armés qui naissent chaque jour pour les désarmer? Comment la résolution 1925 pourra-t-elle changer la situation sur terrain ?»
Oui, la résolution 1925 est toujours placée sous le chapitre 7. Et dans le cas de ce chapitre 7, les forces des Nations Unies sont habilitées à faire usage de leurs forces, non seulement pour protéger la population civile, les personnes qui sont dans leur zone immédiate d'action, mais aussi pour protéger le processus de paix. Donc, tous ces groupes armés qui sont autant d'éléments qui veulent contribuer à dérailler le processus de paix ou à mettre fin au renforcement du processus de la paix seront condamnés et seront combattus par les forces de la MONUC.
Dismas Kitenge a évoqué tout à l'heure que la MONUSCO, dans le cadre de la protection des populations civiles, pourra mener des opérations seules. Est-ce que vous le confirmez?
Oui, il y a, comme je viens de le dire, dans le cas où les informations à la disposition de nos forces indiquent très clairement qu'il y a des zones, qu'il y a des populations qui sont sous une menace imminente d'un groupe quelconque, les forces de la MONUSCO vont faire usage des forces, de la force à leur disposition.
Un autre auditeur, Manoj Mounoubaï, Kibo Kotompoy depuis Nairobi au Kenya. Pour moi, la MONUSCO, à part la mission sécuritaire, doit aussi être active dans la reconstruction de l'Est de la RDC, soit dans les trois provinces du Kivu, le Nord Katanga et la province orientale, par la réfection et l'asphaltage des routes.
La mission, la MONUSCO est une mission de paix. Elle n'a pas vocation de participer à la construction ou à la reconstruction du pays. Ça, ce sont des tâches qui sont dévolues à l'équipe pays qui est chargée, elle, justement, de participer à la reconstruction et au développement du pays. Ceci étant dit, dans certaines zones, et quand cela est justifié, la MONUSCO a à sa disposition les QIPS, qui sont les projets à impact rapide, des projets qui doivent changer immédiatement, je dirais, le vécu quotidien de la population. Et la MONUC et la MONUSCO participent à ce genre d'activités. Par exemple, vous savez que les routes sont en train d'être refaites, les routes et les ponts en Équateur. À Dungu, Dungu Faradje, la route est en train d'être refaite par les génies militaires de la MONUSCO, non pas seulement parce que ce sont des routes, mais cela permet, un, de revitaliser ces zones et ensuite de permettre aux forces de l'ordre de se déplacer assez rapidement. Parce qu'une des raisons pour lesquelles certains villages, certains coins de la population sont encore sous le contrôle des forces ou des groupes armés, c'est parce que les moyens de communication sont difficiles. Donc, en réfectionnant ces routes, on permet aux forces de l'ordre de se déplacer rapidement, donc d'apporter plus de sécurité dans certaines zones.
Maître Jean Bouillou, deux auditeurs du Sud Kivu, Fikir et Saïdi Papidouira, le changement de MONUC en MONUSCO ne changera rien à la vie des Congolais au moment où son mandat est d'une année. On change la vareuse, mais les joueurs restent les mêmes. Robert Bahomé de Bukavu, sans un changement réel de méthodologie, la MONUC restera toujours égale à la MONUC, et ce serait donc comme on dit bonnet blanc et blanc bonnet.
Il est certes vrai que sur le plan de
de personnes qui vont gérer ou qui vont sur le terrain, le gouvernement n'a pas une mainmise sur le choix. C'est tout à fait, ça peut être les mêmes qui continuent, mais il faut voir le changement au niveau conceptuel de la mission. Et c'est important de, en lisant la résolution, parce qu'ils n'ont pas eu à en disposer, c'est important de constater que c'est presque une plénitude du chapitre 7, c'est-à-dire au-delà des missions militaires, on va vers des missions civiles. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi louer les missions civiles de ce que la MONUC avait déjà commencé et qui va se prolonger dans la MONUSCO, c'est-à-dire des interventions locales dans les milieux où le gouvernement n'a pas pu être suffisamment effectif, interventions qui sont du domaine social. Par exemple, l'appui aux ONG d'ordre divers pour leur permettre d'assurer leur mission à la base. L'appui à des gouvernements, disons, locaux, l'appui à des chefs, soit des chefs de territoire, des chefs de district. Ce sont des choses que je trouve extrêmement importantes du point de vue de l'effectivité à la base. Parce que souvent dans les villes où on ne voit pas cette action se dessiner sur le terrain, mais elle est nécessaire. Par exemple, je côtoie souvent ces services qui accompagnent l'action du gouvernement en matière médicale en permettant d'acheminer les médicaments jusque dans les dispensaires les plus reculés. Alors, ce genre de missions qui, à l'origine, sont de la compétence du gouvernement, et dans les lieux où le gouvernement n'a pas pu les assumer, la MONUSCO peut bien les prolonger avec, je dirais moi, une effectivité, une attente locale qui sera au bénéfice des populations, mais pas au bénéfice des théoriciens.
Alors, l'émission est vraiment pédagogique, hein, Maître Jean Bouillou, c'est pour permettre aux auditeurs de nous suivre, de comprendre tous les artifices autour de la MONUC, de la MONUSCO. Il y a Paulette Acoulé de Béni-en-Or Kivu qui dit ce changement n'est qu'une simple justification du refus, du retrait des forces onusiennes au Congo.
Oui, un ami me l'a dit tout à l'heure quand je venais à cette émission. Il m'a dit lui aussi que bon, enfin, c'est une façon de regarder la MONUC ici parce qu'on ne voit pas la différence. Donc, je lui ai dit justement ceci, que lorsque vous lisez le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, il y a plusieurs dimensions de ce regard de la paix. L'objectif n'est pas de proposer une confrontation militaire immédiate, mais l'objectif c'est de protéger la paix, de sauvegarder la condition des populations et de n'intervenir militairement que si c'est nécessaire. Mais au-delà de l'intervention militaire, il est apparu, et beaucoup d'ONG internationales ont critiqué cela, il est apparu nécessaire qu'il y ait un secours apporté soit au gouvernement local, soit à la population locale, dans divers domaines dans lesquels des souffrances sont ressenties de manière plus atroce. Et je crois que c'est un peu le but désormais de la MONUSCO dans ce qu'il va y avoir comme action, c'est aller au-delà des aspects militaires pour rejoindre une certaine, entre guillemets, conditionnalité civile.
Ah, rendons-nous au Nord Kivu, où dans le territoire de Béni, le cinquantenaire de l'indépendance de la RDC a été célébré dans le deuil. L'activiste de droits de l'homme Muindo Salvatore, représentant de l'ONG Bon Samaritain, a été abattu à son domicile par des hommes en armes dans la nuit du 29 au 30 juin 2010. La nouvelle a été rapportée ce jeudi matin par la société civile du territoire de Béni. Sylvestre Kilolo pour les détails.
L'activiste des droits de l'homme Muindo Salvatore a été assassiné hier à sa résidence à Kalunguta, 20 km de Beniville, sur la route Beni-Butembo. En effet, des hommes en armes et en uniforme militaire ont assiégé sa résidence dans la nuit de mardi à mercredi vers 1h du matin et ont exigé sa présence. La femme du défunt s'étant présentée en premier aux assaillants, ceux-ci ont menacé de l'exécuter si son mari ne se présentait pas. Et une fois sorti de sa cachette, les assaillants lui ont logé une balle dans sa poitrine. Muindo Salvatore est mort sur le coup, selon les sources de la société civile à Beni. Le corps de la victime a été mis sous terre hier mercredi 30 juin, au moment où les Congolais commémoraient les 50 ans de l'indépendance du pays. On se rappelle, les membres de la société civile de Beni avaient depuis près de deux semaines annoncé leur intention de ne pas participer aux festivités du 50 ans pour marquer leur deuil suite à l'assassinat du début juin à Kinshasa du président de l'ONG La Voix de Sans Voix, Floribert Chebeya. L'arrêt des activités allait du 23 juin au 3 juillet prochain. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Merci Sylvestre Kilolo. Dismas Kitenge, vous êtes en ligne?
Oui.
Alors, comment, dans le cadre de la protection des populations civiles, la MONUSCO pourrait aider le gouvernement congolais dans ce genre de situation? Concrètement.
Dans ce genre de situation d'attaque contre les défenseurs, la résolution est tout à fait claire. La résolution, je disais tout à l'heure, protège non seulement la population civile dans son ensemble, mais en particulier les défenseurs de droits de l'homme. Il est dit de protéger les personnels chargés de défendre les droits de l'homme. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gouvernement impose les cas des assassinats, pour des cas de meurtre. Le gouvernement devra initier des enquêtes crédibles pour arriver à dénicher les auteurs, à les sanctionner conformément à la loi congolaise. Au cas où le gouvernement ne le faisait pas, donc il se déroberait de ses obligations. Ça, c'est une chose tout à fait claire. Deuxièmement, ce que le gouvernement devrait faire, c'est de pouvoir essayer d'accélérer les principes de respect des droits de l'homme par les forces de sécurité qui sont responsables de telles graves violations des droits de l'homme, puisqu'en fait, c'est une série des attaques, de meurtres, des assassinats contre le défenseur, contre les journalistes et certains opposants politiques. Là, il faudrait aussi mettre en place aussi une loi particulière qui peut protéger les défenseurs de droits humains. Et enfin, il faut aussi créer un cadre de dialogue. Hein. Là, on a parlé de l'entité de liaison qui devait réunir d'un côté tous les responsables des services de sécurité, les membres du gouvernement, des institutions publiques et les défenseurs de droits humains. Mais à cette allure, il faut assainir ce climat-là. Parce que l'animosité des autorités au travail des défenseurs de droits de l'homme nous comprend-il ni tolérable.
Maintenant, Monoubaï, sur le même chapitre, il y a Bernard Andeka depuis Guémena dans la province de l'Équateur qui dit « Nous voulons savoir quels sont les moyens et stratégies que la MONUSCO va mettre en place pour sécuriser totalement nos frères et sœurs à l'Est qui tombent souvent dans des embuscades matin et soir. »
Sécuriser totalement, je crois que la MONUSCO ne peut pas avoir cette prétention. Comme Maître Mbouyi l'a dit, la responsabilité première de la protection et de la sécurité, je crois que ça relève du devoir régalien de l'État. La MONUSCO, par contre, va travailler de concert avec le gouvernement. Nous, de notre part, nous pensons que ce que nous pouvons faire, c'est de travailler au renforcement des capacités des différents organes de l'État, de l'armée au niveau de la réforme du secteur de sécurité, de travailler au renforcement du système de la justice avec les juges, en faisant de notre mieux pour qu'ils aient les moyens de travailler, tels que les tribunaux, etc., en formant la police, parce qu'il revient à la police de travailler au maintien de l'ordre. C'est ce que nous allons faire. Nous allons travailler aux côtés de l'État pour permettre le renforcement de ses capacités dans différents endroits afin de mieux protéger et servir la population.
Ex-Gilbert Katiba de Kananga, au Kassai Occidental, vous demande « Cette stabilisation sera-t-elle concentrée à l'est du pays, là où les milices opèrent encore ou partout en RDC? L'effectif du staff local des ex-MONUC sera-t-il réduit ?»
D'abord, la résolution 1935, par la résolution 1925, le Conseil de sécurité a demandé que les forces de la MONUC se déplacent et se concentrent essentiellement à l'est du pays et surtout dans les deux Kivu et la province orientale, surtout dans les Ouéli. En ce qui concerne le reste du pays, la résolution 1925 a demandé à la MONUSCO de travailler de concours avec l'équipe pays. L'équipe pays, ce sont toutes les agences et fonds des Nations Unies qui ont une présence beaucoup plus longue ici en République démocratique du Congo, et de commencer à penser à un transfert de compétences vers ces agences et fonds afin que de les renforcer pour qu'ils puissent prendre la relève le moment venu lorsque la MONUSCO va se retirer. Donc, les premiers concernés par le retrait seront d'abord les militaires, mais comme vous le savez, la résolution 1925 demande à la MONUSCO de travailler avec le gouvernement, de faire une évaluation, je dirais presque permanente, avec le gouvernement, afin de décider, lorsque la situation sécuritaire le permet, là où on peut retirer ses forces et le niveau de retrait de ses forces.
Maître Jean Bouillot, un commentaire sur cet assassinat de ce défenseur de droits de l'homme de Béni.
Oui, c'est d'abord quelque chose de regrettable qui fait justement le prolongement de l'assassinat de Floribert Chebeya, qui est pour nous qui avons été membres de cette association, de pionniers pratiquement, et presque le seul qui est resté permanent dans le secteur. Qu'il s'agisse de Floribert Chebeya ou bien de Mohindo, je suis persuadé qu'il faut absolument que l'autorité de l'État puisse s'appliquer. Toutes les demandes qui sont faites dans le sens des enquêtes assez claires pour punir les responsables doivent être satisfaites, mais également, ce qui est le plus important, pour préserver la vie des militants des droits de l'homme à l'avenir, il faut nécessairement une prévention de ce point de vue. C'est dans ce sens que je partage l'idée de dispositions légales particulières pour pouvoir protéger cette catégorie de personnes. J'ai été moi-même pendant de longues années militant des droits de l'homme, j'ai été mis en prison et tout ça, et c'est toujours l'intervention de la population qui est le salut dernier du militant des droits de l'homme. Et dans le cas d'espèce, je suis aussi d'avis qu'il faut un plus grand dialogue. Au-delà de la création du ministère des droits humains, il faudrait qu'il y ait toute une préoccupation au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif et même au niveau du judiciaire, de pouvoir considérer que cette catégorie participe pleinement à la bonne gouvernance. Et sans les militants des droits de l'homme, on ne saurait pas, dénoncer les abus, on ne saurait pas connaître certaines choses, on ne saurait pas exercer un pouvoir dans l'intérêt du plus petit des citoyens.
Donc, à vous comprendre, une loi protégerait mieux les défenseurs de droits de l'homme, mais les lois dans ce pays, il y en a beaucoup, hein, donc
oui.
C'est toujours l'exécution qui pose problème.
Tout à fait d'accord, Guy, c'est pourquoi je dis qu'au-delà de la loi, il faut tout un engagement collectif à trouver le bien fondé de cette catégorie de nos propres frères, et à pouvoir avoir une attitude de les protéger et de privilégier la vie humaine, la mission souvent risquée, et au point que souvent quand arrive ce type de crime, on ne sait pas si c'est des gens des gouvernementaux, on ne sait pas si c'est des tiers qui ont une dent contre eux, on ne sait pas si c'est des puissances qui ont été offensées, mais il faut absolument arriver à leur trouver un cadre social, comme on en trouve à des médecins, à des avocats, à des guérisseurs parfois, à des pasteurs, à des religieux. Il faut qu'on leur donne une dimension qui leur permette une survie et pas des morlages spontanés comme ça.
Dismas Kitenge, vous souteniez également l'idée d'une loi pour protéger les défenseurs de droits de l'homme, mais cette loi les protégerait-elle réellement?
Un problème sérieux dans ce pays de volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique de travailler avec les défenseurs, d'accepter leur travail, d'accepter leur présence, de leur reconnaître. C'est ce qui fait défaut à l'heure actuelle, avant toute chose. Ensuite, il faudrait une culture politique de droits de l'homme qui n'existe pas dans le chef de ceux qui nous dirigent, qui croient que toute critique, toute analyse, toute objection à une certaine politique constitue une menace au pouvoir. Ça, c'est un problème de culture politique, de culture de droit. Enfin, on peut suivre maintenant avec une loi, on peut suivre avec un cadre de concertation. Mais avant, j'estime que les deux choses sont importantes. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas de loi qui protège les défenseurs. Mais le travail des défenseurs est accepté puisqu'il y a une volonté politique. Il y a une culture des droits de l'homme, une culture politique de les accepter. Et chez nous, ça fait défaut.
Maintenant, Docteur Samuel de Bénionor Kivu, je voudrais savoir si le changement de la MONUC en MONUSCO coïncide ou est en rapport avec le changement des dirigeants à la tête de la MONUC. Et Antoine Philippe de Kalemi au Katanga, la MONUSCO pourra-t-elle réellement stabiliser ce pays avant le 1er juillet 2011?
Bon, premièrement, je crois que c'est juste une coïncidence. Le changement à la tête de la MONUSCO n'a rien à voir avec le changement du mandat. Il se passe que c'est, je crois que le moment a été bien choisi puisque en nous changeant de mandat, que aussi on amène un nouveau chef à la tête de la mission pour redynamiser la mission. Donc c'est juste une coïncidence heureuse, je pourrais dire.
Alors, la deuxième question, c'est la MONUSCO pourra-t-elle réellement stabiliser la RDC avant le 1er juillet 2011 ?
Nous devons être optimistes. Nous, au niveau de la MONUSCO, notre premier partenaire, c'est le gouvernement. Nous allons travailler avec le gouvernement pour nous acquitter au mieux de la responsabilité que le Conseil de sécurité nous a donnée. En tant que mission de paix, je crois que notre vœu le plus cher, c'est que notre mission dure le moins possible, parce que notre départ signifiera que non seulement nous avons atteint notre but, mais que la paix est revenue dans ce pays.
À un moment, maintenant, Jimounoubaï, on a constaté des tiraillements entre le gouvernement et la MONUC. Pouvez-vous confirmer qu'à ce jour, les relations sont au beau fixe entre les deux parties?
D'abord, je dois dire que les relations ont toujours été au beau fixe. Il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias, mais entre les dirigeants, que ce soit au sommet de l'État, ici, dans ce pays, les plus hauts dirigeants des Nations Unies, il n'y a jamais eu de friction. À chaque fois que les dirigeants des Nations Unies sont venus ici, ils ont traité avec les dirigeants de ce pays. Et comme vous le savez, avant que cette résolution 1925 ne soit prise, il y a eu des échanges, plusieurs échanges, au niveau le plus élevé des Nations Unies et du pays. Et tous ces échanges, justement, ont été incorporés dans cette résolution que vous avez aujourd'hui, la 1925, qui reflète, en fait, qui est le fruit de cet échange entre la MONUC et les Nations Unies. En ce qui concerne, pour le reste, je crois que ça vient beaucoup plus de radio-trottoir que de la réalité.
Maître Jean Bouillou, vous êtes acteur politique. Nous tendons vers la fin de l'émission. À quoi devrait s'attendre le Congolais qui vous suit en ce moment par rapport à la MONUSCO?
Je crois qu'il devrait d'abord s'attendre au fait qu'il va y avoir un peu plus d'appui aux efforts du gouvernement pour le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays. Et comme Manoj Moulouba l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement tout un dispositif pour ça. Mais je voudrais aussi saisir l'occasion pour dire que Dismas Kitenge, lorsqu'il dit qu'il n'y a aucune culture politique des droits de l'homme au Congo, je dis non, ça c'est aussi une mauvaise considération de la réalité, parce que cette culture est non seulement constitutionnelle, parce qu'il faut commencer par les lois de base, mais elle est également réelle. Ça fait quand même un bon nombre d'années que les militants des droits de l'homme ont pu opérer et ont pu obtenir des résultats spectaculaires. Je vois par exemple la Voix des Sans Voix qui a obtenu la suppression des cachots des services de renseignement. Et cette suppression a été effective pendant de longs moments. Quelquefois, quelques téméraires dans la police et la sécurité les ressuscitent, mais il y a eu une culture et de plus en plus croissante de respect des droits de l'homme. Et ceux qui suivent cette émission doivent s'attendre à ce que l'appui de la MONUSCO va aller dans ce sens et pour le bien du Congolais.
Conclusion, maître Jean Bouillou.
Moi, je conclue que le changement de cette mission doit être vu positivement, dans le sens de la dépendance, mais effectivement dans le sens d'une collaboration plus étroite avec le gouvernement, parce que dans cette mission, il est notamment demandé à la mission des Nations Unies, dans la résolution, de pouvoir s'appuyer sur le gouvernement et d'agir avec lui.
Dismas Kitenge, un mot également en guise de conclusion. Dismas, nous avons perdu Dismas Kitenge, maintenant nous allons faire une conclusion.
Ce que je pourrais dire, c'est que nos auditeurs doivent comprendre que la MONUSCO n'est pas là pour se substituer à l'État ni au gouvernement de la République démocratique du Congo. La MONUSCO, c'est un partenaire peut-être de choix, qui est là pour faire en sorte que l'avenir de la République démocratique du Congo et de la population congolaise soit un peu plus radieuse. La MONUSCO est là pour faire en sorte que la paix soit beaucoup plus forte chaque jour.
Merci à Mme Jumonoubaï. Fin de cette émission, mise en onde Willem Lungamba, réalisation Guy Mathieu, assisté de Kéline Kouté, supervision rédactionnelle Félix Pelamondo, présentation Alain Irung Mouchige. Merci de nous avoir suivis. Bon suite au programme sur Radio.
Radio Okapi.
Okapi.